Midi et demi sur France Culture, le journal avec Antoine Marette.
Bonjour à tous. 13 militaires français tués au Mali dans une collision d'hélicoptères. Ils participaient à une opération contre des groupes armés terroristes. Un comité spécial à Rome pour tenter de sauver Venise des eaux. Les dégâts de la dernière crue se chiffrent à 1 milliard d'euros. Et le pire est sans doute à venir avec le réchauffement climatique qui fait monter le niveau de la mer. Dans l'actualité française, cette journée d'action des étudiants aujourd'hui, deux semaines après l'immolation par le feu à Lyon d'un de leurs camarades, ils réclament un plan d'urgence pour lutter contre la précarité. Et puis l'autre dossier chaud du gouvernement, c'est les retraites. Avant la grève du 5 décembre, syndicats et patronats se succèdent à Matignon pour discuter de la réforme. On en parlera à la fin de ce journal qui va être raccourci en raison du mouvement social à Radio France. C'est un accident qui est à l'origine de la mort de 13 militaires français au Mali, 13 militaires de la force Barkhane qui ont perdu la vie lors de la collision de deux hélicoptères pendant une opération de combat contre des djihadistes. 6 officiers, 6 sous-officiers ainsi qu'un caporal-chef. Ce matin, Emmanuel Macron salue la mémoire de ces militaires. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Antoine.
Que sait-on exactement de ce qu'il s'est passé?
L'accident s'est produit hier soir dans le Liptako, la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina. Il a eu lieu à proximité de Menaka, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière nigérienne, un secteur très enclavé où prospèrent les djihadistes. Selon l'état-major des armées à Paris, les deux hélicoptères se sont heurtés en vol à très basse altitude alors qu'ils participaient à une opération d'appui aux commandos de la force Barkhane engagée au sol contre les islamistes. Sur les 13 militaires tués dans la collision, 7 appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau et 4 au 4e régiment de chasseurs de Gap. Les deux autres venaient de régiments basés à Castres et à Vars. Parmi les victimes figure le fils de l'ancien ministre et sénateur Jean-Marie Bockel. Les deux appareils qui se sont percutés hier soir sont un hélicoptère d'attaque Tigre de conception moderne. Les premiers exemplaires ont été mis en service en 2007 et un Cougar, un hélicoptère de manœuvre et d'assaut héritier des Pumas, utilisé depuis des décennies par l'armée française.
Alors l'opération Barkhane au Mali, où en est-elle ?
Eh bien, c'est actuellement la plus importante opération extérieure française. Elle mobilise 4500 hommes pour lutter contre le djihadisme dans 5 pays, de la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Tchad à l'est, une superficie qui représente quasiment celle de l'Europe. Elle dispose de 7 avions de chasse, d'une dizaine d'avions de transport, d'une vingtaine d'hélicoptères et de 260 blindés. L'engagement des militaires français et les moyens mis en œuvre ont permis de porter des coups très durs aux djihadistes qui cependant continuent d'avancer. C'est partout. Au Mali, le fond du problème est politique. L'accord de paix signé à Alger en 2015 par le gouvernement malien et ratifié par plusieurs groupes rebelles, à l'exception des islamistes radicaux, prévoyait d'intégrer les insurgés dans les troupes régulières et de les faire participer à des patrouilles communes. Il envisageait aussi une forte décentralisation afin d'associer au pouvoir les populations locales. Tout cela n'a pas fonctionné. Trop de méfiance, de corruption, de pression religieuse et la pauvreté au Mali, comme au Burkina ou au Niger, facilite le recrutement de nouveaux djihadistes par les islamistes.
Merci à vous Bertrand Galichet. Venise sera-t-elle sauvée des eaux ? C'est la question du jour à Rome, alors que la cité des Doges se remet péniblement d'une spectaculaire acqua alta. Le gouvernement a convoqué un comité spécial avec plusieurs ministres et les autorités locales, le maire notamment. Les dégâts se chiffrent à 1 milliard d'euros, mais il va surtout être question de l'avenir de Venise, menacée par la montée des eaux. Deux pistes sont envisagées, la construction de digues protectrices et l'encadrement de la présence de paquebots de croisière qui sillonnent la lagune. À Rome, la correspondance de Bruce de Galza.
Le comité No Grandi Navi, non aux grands navires, défend une position radicale, interdire les paquebots dans toute la lagune de Venise, car ils polluent, dégradent le fragile écosystème et sont aussi en partie responsables de la montée des eaux, car pour les accueillir, il a fallu creuser la lagune, explique le porte-parole du mouvement Tommaso Cacciari, interrogé par la Nuova di Venezia.
Il faut maintenant rétrécir les entrées du port, qu'elles soient moins profondes, ne plus creuser de chenaux portuaires et ouvrir le plus possible la lagune pour que la marée puisse s'étendre au maximum et ainsi ne pas monter trop.
Le gouvernement a déjà interdit aux paquebots de passer devant la place Saint-Marc depuis 2012 et le naufrage du Costa Concordia, sauf qu'il fallait une voie alternative que 7 ans plus tard, les autorités cherchent encore. Mais un début de solution sera acté aujourd'hui à Rome, selon le député de Venise, Nicola Pellicani.
Le ministre a annoncé que dès l'année prochaine, au début de la saison en avril, 20 à 30% des paquebots pourront être déviés vers le port de Marghera. C'est déjà une bonne nouvelle, car cela veut dire qu'il y aura 200 navires de moins.
200 sur 530 chaque saison, qui transportent jusqu'à 1 800 000 croisiéristes, mais rapportent peu, comparé aux près de 30 millions de touristes qui auront visité Venise cette année.
Dans l'actualité française, cette journée nationale d'action et de mobilisation des étudiants. Aujourd'hui, 2 semaines après l'immolation par le feu d'un étudiant à Lyon, l'intersyndicale appelle à manifester pour demander un plan d'urgence et une politique pour remédier à la précarité étudiante. Et selon l'UNEF, ce phénomène est en augmentation de près de 3% cette année. À cela s'ajoute un certain désenchantement chez ces jeunes. C'est ce que nous décrypte Sandra Wabian. Elle est la directrice du pôle évaluation et société au Crédoc. Elle est interrogée par Fiona Moganam.
Les jeunes qui sont aujourd'hui dans une forme d'incertitude par rapport à un certain nombre de domaines, donc leur insertion professionnelle, leur carrière, leur logement, leur installation, leur vie de couple, l'évolution de la protection sociale, des retraites, etc. De manière générale, les jeunes sont plutôt plus optimistes que les autres générations. Il y a un effet de cycle de vie, c'est-à-dire qu'au début de votre vie, vous avez plutôt un regard un peu positif et un petit peu plus d'enthousiasme que quand on est à la fin de sa vie. Mais dans le temps et avec les générations, finalement, la perception du niveau de vie, elle a quand même diminué, mais avec moins de diminution que chez les plus âgés. Parce qu'en fait, les plus âgés, d'une certaine manière, ils sont toujours dans le paradigme des 30 glorieuses, c'est-à-dire un moment où le niveau de vie progressait sans arrêt. Et donc, finalement, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Donc, il y a vraiment un décrochage très fort du sentiment qu'on a sur le niveau de vie. Alors que chez les jeunes, il y a une diminution. Les jeunes d'aujourd'hui sont un peu moins positifs par rapport à leur niveau de vie que les jeunes d'il y a 40 ans, mais moins fortes. Un peu comme si aussi, finalement, de toute façon, eux, ils ont grandi dans un monde où il y avait la crise, plusieurs crises à répétition. Et donc, de toutes les manières, cet idéal des 30 glorieuses, il est pas présent, en fait, chez les jeunes. Il fait pas partie de l'horizon.
Et vous pouvez consulter sur le site franceculture.fr l'article 1979-2019, une jeunesse toujours plus désenchantée. Épreuve de cette précarité des étudiants, les Restos du Cœur, qui lancent aujourd'hui leur campagne d'hiver de distribution de repas, aident de plus en plus d'étudiants. Ils en ont accueilli 30 000 en 2018 au total. 51% des bénéficiaires ont moins de 26 ans et 39% sont même des mineurs. Le gouvernement a cloué hier le Grenelle contre les violences conjugales. Parmi les mesures annoncées, la prise en charge psychologique des agresseurs, l'introduction de la notion d'emprise dans le code pénal et le renforcement du numéro violence femme, le 3919. Dans un discours à Matignon, Édouard Philippe a mis en avant les moyens débloqués pour la lutte contre les violences faites aux femmes. 360 millions d'euros en une année. Mais les associations restent sur leur faim, Diane Berger.
Car elles étaient très nombreuses à demander un budget bien plus élevé, 1 milliard d'euros. C'était le cas par exemple du collectif Nous Toutes, celui qui a organisé les manifestations de samedi dernier. Aujourd'hui, il évoque une douche froide. Et sa déception est partagée par beaucoup d'associations. Pour Oser le féminisme par exemple, le gouvernement présente des mesures fortes mais sans le financement adéquat. Interrogée sur le sujet ce matin au micro de France Inter, la secrétaire d'État Marlène Schiappa justifie le bilan du Grenelle.
Il y a aussi énormément d'associations qui ont participé au Grenelle des violences conjugales et qui en sont ressorties très satisfaites. Je comprends que ce soit un débat qui génère énormément de colère. Moi, cette colère, je la partage. C'est le moteur de mon engagement. Et maintenant, je pense que la décence appelle de faire attention aussi aux mots que l'on emploie. Le budget, il est de 1,116 milliard d'euros pour 2020. Ce n'est pas moi, Marlène Schiappa, qui le dit. C'est la direction du budget de l'État. Oui, on peut toujours mettre plus d'argent et on sait toujours quoi faire de plus d'argent. Le débat sur 1 milliard ou pas 1 milliard, en fait, il est inopérant au concret. La vraie question, c'est y a-t-il assez d'argent sur le terrain ? Aucune association nationale qui accueille des femmes victimes de violences conjugales n'a eu de baisse de subvention. Au contraire, il y a eu en moyenne une augmentation de plus 21%.
Mais en dépit des explications de Marlène Schiappa, Camille Bernard du collectif Nous Toutes maintient sa position. Après quelques calculs, les comptes ne sont pas bons.
Pour ce qui est du milliard, il y a quand même une grande partie qui est allouée à des programmes d'aide au développement, non à une politique publique d'envergure nationale. Donc c'est bien ça qu'on demande, hein, bien sûr. ce que Monsieur le Premier ministre a annoncé, c'est qu'on devrait avoir le même, presque le même montant de finances qui seront allouées donc aux violences sexistes et sexuelles l'année prochaine. Donc, on le sait, ce n'est pas suffisant, on l'a déjà dit. Et puis, il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont déjà, qui existaient déjà. Et c'est bien une question majeure d'ampleur et qu'il est urgent de mettre des mesures pour lutter contre tout ça.
Déçu par le Grenelle, le collectif féministe appelle à continuer la mobilisation pour obtenir plus de mesures et surtout plus de moyens.
Merci Diane Berger. Édouard Philippe également en première ligne au sujet des retraites. Le compte à rebours est lancé avant la grève du 5 décembre. Syndicats et patronats se succèdent à Matignon depuis hier matin pour discuter de la réforme des retraites, mais sans grand espoir de compromis, tandis que le gouvernement est convoqué en séminaire dimanche pour préparer l'épreuve de force. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
À 10 jours de la date fatidique, Édouard Philippe voulait faire un point sur l'ensemble de la réforme avec les partenaires sociaux et montrer que le dialogue social continue. Mais depuis quelques jours, l'exécutif a durci le ton en ciblant les régimes spéciaux, fer de lance d'une grève interprofessionnelle qui s'annonce très suivi dans les services publics.
Oui, le gouvernement tente de faire du 5 décembre une journée de grève de privilégiés. Les régimes spéciaux statuent d'une autre époque, juge le président de la République, quand plusieurs ministres dénoncent des revendications corporatistes. Un jeu dangereux, analyse le politologue et président de Pollingvox, Jérôme Sainte-Marie.
Depuis quelques jours, le gouvernement essaye d'accréditer le fait que la journée du 5 décembre serait une mobilisation contre les régimes spéciaux. Après avoir valorisé sa volonté de réforme et son courage réformateur, précisément, il tente de minimiser sa propre action. C'est une stratégie de communication qui est, à mon avis, extrêmement périlleuse.
Parallèlement, le gouvernement joue la carte du dialogue social. En ce moment, on va réunir les parlementaires de la majorité ce soir, puis les ministres dimanche. On serre les rangs, on donne la ligne, on fait en sorte d'éviter une cacophonie au sommet de l'État. Mais là aussi, c'est risqué pour Jérôme Sainte-Marie.
Se met en place et se met en scène surtout un grand bas de combat au sommet de l'État pour tenir bon face à un événement dont personne ne peut anticiper l'intensité. Ça peut avoir un effet exactement contraire en donnant une espérance déraisonnable à tous les opposants qui peuvent croire que cette journée, puis les journées qui suivront, pourrait donner un vaste coup d'arrêt à la politique libérale d'Emmanuel Macron. Je pense que de part et d'autre, il y a un excès de crainte et d'espérance.
Un excès de flou aussi, peut-être, et les clarifications n'interviendront visiblement pas avant la grève. Le gouvernement fera, nous dit-on, des annonces sur la réforme des retraites dans les jours qui suivront la mobilisation du 5 décembre.
Merci à vous, Rosalie Lafarge. Un mot de la cote de popularité de l'exécutif. Celle d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe sont à nouveau en baisse en novembre de respectivement 1 et 2 points. 2 Français sur 3 ont une mauvaise opinion du couple exécutif, selon un sondage Odoxa diffusé aujourd'hui. Avec 34% des personnes interrogées qui considèrent qu'il est un bon président de la République, le chef de l'État cède du terrain pour le 2e mois consécutif à l'approche de cette fameuse journée de mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. Il y a eu un tremblement de terre ce matin en Albanie, 6,4, ressenti notamment à Tirana. Le bilan est pour le moment de 13 morts. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Gris et pluvieux au nord, plus agréable au sud avec quelques éclaircies. Quant aux températures, elles seront douces entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet.